Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, Apocalypse, je vais lire la lettre à l'église d'Éphèse. C'est Apocalypse chapitre 2, et c'est un rappel pour chacun, pour les chrétiens, de tous les temps, à garder la foi. Alors, verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, comme vous le savez, le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur sept messages adressés à sept églises, à sept communautés chrétiennes dans les premiers temps du christianisme, avec des particularités de chacune où l'Esprit de Christ s'adresse à ces communautés pour leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et je pense qu'il y a certainement à tirer enseignement de tout cela. Donc ces sept messages représentent une forme de condensé, tout simplement, de l'histoire de la foi chrétienne. À travers, on peut le dire, plus de 20 siècles, c'est-à-dire des débuts de la Pentecôte, par exemple, au moment où ça peut commencer à la Pentecôte, jusqu'à notre temps. Et pour bien montrer que, à travers toutes les époques, à travers tous les temps, toutes les situations dans divers pays, dans diverses civilisations, la foi passe au-dessus de tout cela, au-dessus de toutes les fluctuations du monde, de tous les bouleversements, les révolutions. La foi est quelque chose qui se situe à un autre niveau. Parce que comme Jésus le dit, et comme il nous le rappelle, c'est que le peuple chrétien n'est pas du monde. Il vit dans le monde, mais il n'a pas l'esprit du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, dit Jésus à son Père céleste, mais de les garder du mal qui est dans le monde. Alors notre raison d'être, notre raison de vivre, notre raison de servir, notre raison d'aimer finalement celui qui nous a sauvés, celui qui est devenu à la fois sauveur et seigneur, est consigné à travers les hauts et les bas, nous pourrions dire, de l'église chrétienne. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit de points forts et il s'agit de points faibles. Vous l'avez remarqué avec moi, il y a des éloges, mais il y a aussi des blâmes, ne serait-ce que déjà dans cette première proposition qui nous est faite. Il y a parmi les chrétiens de tous les temps des succès, des victoires, voire même des triomphes, mais il y a également des défaites au milieu du monde chrétien. Et je crois que les choses ont été dites pour que nous restions tout simplement vigilants, de rester prudents, de rester sages et de faire attention à ne pas être emportés loin de ce que le Seigneur nous a donné, le trésor qu'il nous a confié. Et je crois que c'est le but de ces sept messages adressés à sept églises de la période, première période du christianisme. Et nous voyons et nous avons appelé cette tout simplement l'église d'Éphèse, eh bien l'église du premier siècle. Ça va, comme je le disais tout à l'heure, de la résurrection, de la Pentecôte, jusqu'à la mort du dernier apôtre, en quelque sorte, c'est-à-dire le premier siècle, hein, le siècle premier, tout simplement. On l'a appelé d'abord l'église primitive, première église, et qui, après 20 siècles, subsiste encore, sous différentes formes, en ayant peut-être pour certaines perdu l'essentiel, c'est-à-dire son fond profond. Enfin, on pourrait dire, oui, son fond, tout simplement. Et c'est cette première église, on pourrait aussi la nommer, c'est l'église du réveil évangélique. Jésus est venu, il a formé ses disciples, il les a eus à ses côtés pendant 3 ans, il les a enseignés, ils ont été les témoins oculaires de miracles, de puissances, de choses extraordinaires, de guérisons, de prodiges, de choses formidables. Et ensuite, lorsque Jésus, eh bien, après sa crucifixion et sa résurrection, leur a dit « Maintenant, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle !» Il parlera des puissances des miracles. « Celui qui croira en moi, eh bien, voici les miracles qu'il fera. Voilà, ceci, cela, etc. » Il leur a dit « Maintenant, allez partout et dites qui je suis. Appelez les hommes au royaume de Dieu. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur, eh bien, tout simplement, eh bien, là, eh bien, la foi. » Donc, c'est la période du réveil évangélique qui suit naturellement, eh bien, les grands événements, les derniers événements de la vie de Jésus, comme je l'ai dit il y a un instant. Donc, Jésus a dit, mais j'ai fait des miracles, mais vous en ferez encore de plus grands dans le temps et dans l'espace. Et on s'aperçoit que pour le chrétien du premier siècle, comme le chrétien du 21e siècle, c'est-à-dire pour nous, autant que nous gardions fermement dans notre cœur ses enseignements, sa parole, le message biblique, le message évangélique, mais le Seigneur est toujours le même, il est capable de faire aujourd'hui ce qu'il faisait hier, ce qu'il a fait dans les premiers temps. Nous sommes non pas dans l'église première primitive, mais nous serions plutôt dans l'église finissante, si l'on peut dire les choses ainsi, parce que nous attendons, comme d'autres l'ont entendu avant nous, eh bien le retour de Jésus qui va rétablir toute chose et remettre de l'ordre dans ce désordre qu'est le monde et remettre les choses, eh bien, comme à leur place. Alors, nous nous apercevons que cette première période, sous l'impulsion de la puissance du Saint-Esprit, il y a eu des choses extraordinaires. Lequel des chrétiens n'a pas pensé quelquefois dans sa vie en disant « Mais si j'avais vécu du temps de Jésus ou du temps des apôtres, j'aurais vu beaucoup de choses. » Ben, croyez bien que de toute façon, c'est une question de temps et d'espace, parce qu'aujourd'hui, eh bien, les choses que Jésus a faites hier, elles se produisent encore dans certaines régions du monde, dans des pays déshérités souvent, dans des pays où la misère règne, où il y a d'épaisses ténèbres à cause de l'occultisme, de la magie, de toutes sortes de choses, où là où le nom de Jésus est prononcé, le nom de Jésus est prêché, eh bien il y a la lumière qui vient. Et aujourd'hui, il y a, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des centaines, des milliers de personnes qui se convertissent parce qu'on leur prêche Jésus-Christ. Et les miracles d'hier, eh bien, sont les miracles d'aujourd'hui. Vous allez me dire, mais dans nos pays occidentaux, c'est pas ça. C'est vrai. Parce que peut-être, justement, c'est l'objet, eh bien, de notre message ce soir, hein, où il ne faut pas perdre de vitesse, où il ne faut pas perdre de souffle, il ne faut surtout pas perdre l'esprit. Et on s'aperçoit que nous sommes plutôt dans une période, nous, dans nos pays occidentaux, où on pourrait dire que le christianisme est vieillissant. Peut-être, on pourrait peut-être ajouter, dans certains cas, il est même moribond. Mais là où l'esprit reste, là où l'esprit est honoré, là où le nom de Jésus est prêché, l'Église reste toujours vivante. Alors, c'est important de pouvoir signaler ça et de le rappeler parce que on sait où nous en sommes et ça nous permet de jauger, de juger, eh bien, où en est notre vie spirituelle et notre foi, la puissance du Saint-Esprit. L'Église apostolique, c'est-à-dire l'Église qui a reçu cet héritage de Jésus, c'est-à-dire par les mains des apôtres. Et les apôtres, finalement, pendant un siècle, ont fait un travail, ceux qui ont été les témoins de Jésus, ceux qui ont vécu avec Jésus. Et ils ont consigné, finalement, leur histoire. Quand vous lisez le livre des apôtres, c'est extraordinaire, ce livre. C'est le livre de l'histoire du Nouveau Testament. C'est extraordinaire et c'est merveilleux à la fois. Alors, on pourrait dire que le starter, si vous permettez le mot, parce que bon, il est peut-être pas très élégant, mais le starter du christianisme, comme nous sommes en train d'en parler, et que nous le constatons à travers cette puissance de l'esprit dans le premier siècle, repose sur trois vérités. La foi, enseignée, retenue, crue, naturellement, la grâce, et puis ensuite l'amour. Les choses sont ainsi, et nous voyons que c'est une impulsion que Dieu a donnée dans le premier siècle, dans l'Église primitive, une impulsion spirituelle à la conquête du monde. Et le monde est venu jusqu'à nous. Enfin, l'Évangile est venu dans notre monde jusqu'à nous, parce que il y a l'Église chrétienne, elle est là. L'Église vivante, l'Église qui est puissante. Alors, j'aimerais justement prendre très rapidement, il est question, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles. Si nous considérons que l'étoile est bien la représentation des églises, sept. Il les tient. C'est pas du lâcher, c'est pas de l'abandon de la part de Dieu. C'est lui qui nous tient tout simplement dans sa main droite, pas la gauche. C'est l'image de la force, la main droite. Et celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Toujours la même chose, l'étoile, les chandeliers représentent les églises. Avec toutes leurs faiblesses, avec toute leur humanité naturellement. Alors il les tient, mais il marche. Une église qui est vivante, c'est une église qui bouge. C'est une église qui travaille. C'est une église qui respire. C'est pas une église qui est morte comme on en voit malheureusement. On se dit, mais où est Dieu? Ça inspire que la mort. Mais il nous est dit qu'il marche au milieu, c'est-à-dire que nous le suivons. Nous marchons à son exemple, et par son impulsion, parce que c'est lui qui marche devant nous comme un gardien, comme un berger, eh bien le troupeau suit naturellement, et il nous guide. Donc c'est l'image de la vie, ça. Une église qui ne marche plus, où Jésus ne marche plus en son milieu, eh bien il ne reste pas grand-chose. Alors, Dieu va dire les choses, l'Esprit de Dieu va dire ceci, ce sont des recommandations, c'est plus que des recommandations, ce sont des compliments qu'il dit. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu es capable d'éprouver ceux qui se disent apôtres, qui ne sont pas, qui sont des menteurs. Tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Ce que Dieu voit dans l'Église première pendant à peu près un siècle, avec cette impulsion de ce réveil qui était ce réveil de l'Esprit, c'est que l'église d'Éphèse caractérisait à la fois le travail, l'ouvrage pour le Seigneur, la persévérance qui nous est donnée par deux fois, où l'église, eh bien là, était à l'œuvre, qu'elle avait du discernement, c'est-à-dire qu'elle savait éprouver ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était juste et ce qui était injuste, ce qui était pur et ce qui était impur. Aujourd'hui, nous sommes même dans la généralité de l'Église chrétienne, on ne sait plus ce qui est pur et ce qui est impur. Hein. Tout est renversé, tout est mélangé, on ne sait plus. Hein. On l'a vu par les derniers faits de ce que nous avons été parfois, eh bien, un petit peu bousculés de ce que le monde chrétien pouvait déclarer en ce qui concerne l'éthique ou certaines morales. Alors, les caractéristiques de sa persévérance, de son travail, de son ouvrage, et que c'est une église qui a payé de son propre sang. Tu as souffert de ses propres peines, de ses efforts, de ses tribulations, de ses persécutions. Tu as souffert. Oui, la souffrance pour Christ, eh bien, elle nous régénère. Parce que on a tendance à s'endormir quand il n'y a plus un souffle de vent. Hein. Oui, plus un bruit, plus rien du tout. Là, on s'endort. Mais l'épreuve, les afflictions dont je citais tout à l'heure, c'est un stimulant, c'est un aiguillant. Et vous le savez très bien que quand on passe par des épreuves, on s'accroche au Seigneur. On oublierait facilement le Seigneur, très facilement, quand tout va bien. Quand il n'y a pas de problème, d'une manière ou d'une autre, on pourrait s'endormir, comme on dit, sur nos lauriers. Hein. Mais l'Église d'Éphèse, la communauté des chrétiens d'Église d'Éphèse, dans le premier siècle de notre ère chrétienne, une Église qui souffrait. Mais une église, parce qu'elle souffrait, eh bien, elle s'accrochait au Seigneur, elle criait au Seigneur, elle priait. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, les églises, dans leur généralité, eh bien, peut-être ont oublié ce que pouvait dire une réunion de prière, savoir ce que voulait signifier intercéder pour les autres, hein. Je ne sais pas. Tu as souffert, et tu ne t'es point lassé. Voilà, ça, ce sont les compliments que Dieu va donner par l'Esprit de Dieu, que Le Seigneur va donner à son Église en disant, voilà, je sais que tu fais cela, je sais que tu es cela, je sais que tu t'es attaché à moi et que tu as fait toutes ces œuvres bonnes. Par contre, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous ouvrons le livre des Actes des Apôtres, lorsque nous voyons la foi des chrétiens du premier siècle, c'était une flamme et un feu. Celle ou celui le feu du Saint-Esprit. Regardez, quand on voit à la Pentecôte, hein, ça brûle. Hein. Les flammes de feu, c'est un symbole, naturellement. Hein. Et de voir ces hommes qui vont passer à travers la persécution, qui vont aller dans mille et une régions, qui vont affronter la mort, qui vont affronter toutes sortes de choses épouvantables. Mais ils vont y aller parce qu'ils aiment. Et quand on aime à ce moment-là, eh bien on est prêt à donner sa vie. Les premiers chrétiens étaient prêts à donner leur vie. On le verra dans le deuxième, on verra ça un peu plus tard, mais quand il s'agit là, c'est de l'église apostolique, mais on verra avec l'église de Smyrne, c'est l'église persécutée. On va voir que ça va prendre des proportions terribles, redoutables. Dans les premiers siècles, sous l'Empire romain, persécuteur, suppôt du diable, en quelque sorte, pour détruire le christianisme naissant. Mais là, eh bien, nous voyons que déjà les premières, quand on voit déjà l'apôtre Paul, quand il fait un petit peu là la liste de toutes les souffrances, dans 2 Corinthiens chapitre 11, j'ai été persécuté, j'ai été battu, j'ai été en prison, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu ceci, mille choses. On voit que ça commence déjà, hein. Et il le faisait parce que c'était une passion. L'amour de Christ me presse, dira Paul. Et là, il y a quelque chose certainement à dire par rapport à ce positionnement des chrétiens d'hier, du premier siècle, par rapport, qui nous renvoie peut-être à nous-mêmes ce que nous sommes. Est-ce que véritablement nous aimons Jésus comme au premier jour de notre conversion? C'est brûlant, hein, quelqu'un, là, on va avoir des baptisés. Et c'est vrai que quand on découvre le Seigneur dans les premiers jours de notre conversion, ça brûle, ça flambe, hein, de tous les côtés, hein. On serait prêt à aller jusqu'au bout du monde parce que on a découvert que Jésus nous aime et on l'aime, Jésus. Mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que le problème, c'est que Dieu va dire, mais tu as abandonné ton premier amour. Mais Seigneur, je t'aime encore. Tu sais, Seigneur, j'ai vieilli, hein. Mais on peut vieillir et garder avec la même force notre amour pour le Seigneur. Hein. C'est pas une question physique. Hein. C'est une question de vouloir. Parce que abandonner, c'est ne plus vouloir aimer. On abandonne. J'ai aimé, mais je n'ai plus la force ou je n'ai plus la volonté d'aimer. C'est abandonner, ça. C'est posséder, c'est avoir et pas vouloir aller jusqu'au bout. Parce que le mot est dit, hein. Tu as abandonné. Si tu avais persévéré, tu en serais encore au même point qu'au départ. Parce que il y a quelque chose d'extraordinaire et de vivifiant et de rajeunissant même. Hein, regardez un fiancé, une fiancée, hein, ils sont prêts à se promettre beaucoup de choses. Bon, maintenant, il faut que ça tienne, c'est sûr. Mais voilà, après 40 ans de mariage, quand vous offrez encore des fleurs à votre femme, c'est pas mal. Hein. C'est bien, hein. Voilà, ça brûle encore, hein. Eh oui. Mais pour l'amour du Seigneur, c'est la même chose. C'est pas une question physique, je le répète. C'est une question de garder intact cet amour que nous avions hier comme au premier jour. Aujourd'hui comme au premier jour, naturellement. Quand il y a une baisse de régime, vous savez, quelquefois, quand il y a de la lassitude, quand il y a le découragement, quand il y a comme un fléchissement de la passion première, hein. Eh oui, hein. Passion d'amour pour le Seigneur, où plus rien ne compte que le Seigneur. On a vécu ça, hein. Quand on a découvert le Seigneur, tout jeune, ah, c'était extraordinaire ça, hein, les premiers jours de notre conversion. Hein. C'est fort et c'est beau, c'est merveilleux, et l'Église a besoin de voir encore aujourd'hui des frères et des sœurs qui vont se convertir à tous les âges, des jeunes, des moins jeunes et peut-être des plus âgés. Et quand ils viennent, quand ils arrivent, ils sont bouillants, ils chantent des cantiques de tout leur cœur, et là il y a tout un enthousiasme qui est là, c'est formidable. Et ça nous fait du bien, nous les vieux, hein. Oh, excusez-moi de dire les vieux. Ouais. Et une église qui vit, c'est une église où le Seigneur marche au milieu d'elle et on a besoin de ce souffle. Ça nous fait du bien. Nous, on aime bien voir des nouveaux qui vont là confesser le nom de Jésus. Et ça, c'est un rafraîchissement. C'est le printemps. Hein. C'est le printemps. On a besoin de ça et prier pour qu'il y ait de nouveaux printemps dans l'église. d'extraordinaire. La passion d'amour pour le Seigneur lui-même, pour sa parole, pour son esprit, pour son œuvre. Ouais. Alors que le Seigneur nous aide, tu as abandonné. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es plus tout à fait le même. C'est comme des vieux mariés qui finalement, eh bien là, oubliaient qu'ils ont été jeunes et qu'ils ont été passionnés l'un de l'autre ou l'un par l'autre, puis qu'au bout d'un certain temps, bon ben, ils vivent en parallèle, ils sont mariés célibataires, chacun de son côté. Non, je crois que même dans un mariage et dans un couple, ça doit être encore plus fort à la fin qu'au début. Hein, ce sera pas la même chose. Hein. C'est sûr que ce sera pas la même chose, mais il y a toujours cette passion et cette ferveur. Ça, c'est extraordinaire, et dans tous les domaines, même dans nos familles et dans nos couples. On a besoin, Seigneur, renouvelle-nous. Renouvelle-nous dans le feu du premier amour, mais renouvelle-nous, et si on est renouvelé, finalement, dans notre vie sentimentale ou affective, c'est parce que, justement, nous n'avons pas quitté le Seigneur, et son amour dans notre cœur pour lui est toujours le même. Et quand nous avons là cette impulsion de lui, de nous à lui, eh bien, c'est après de lui à nous. Et puis tout ce qui est latéral, hein, tout ce qui est finalement à l'horizontale, il imprègne tout le Seigneur. Seigneur, donne-nous de ne pas perdre notre premier amour, s'il te plaît. Alors, si on l'a perdu, s'il y a eu une baisse de volume ou une baisse de régime, c'est surtout ça, hein, une baisse d'intensité, souviens-toi donc d'où tu étais tombé et reprends-toi, parce que c'est quand même moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai donné tout cela. Ce qui te réjouissait admirablement dans les premiers jours de ta conversion, mais c'est moi qui te l'ai donné. Alors garde-le comme un trésor, comme la chose la plus précieuse. Pratique tes premières œuvres. Sois rempli de ce zèle et de cette ferveur, de cette ardeur. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. C'est l'instrument pour lequel, eh bien, on place finalement la lumière. L'Église, c'est une lumière dans le monde. Ouais, c'est un chandelier, l'Église, qui éclaire le monde de ténèbres. Et si véritablement il n'y a plus de lumière, à quoi sert l'Église? Elle s'éteint, cette flamme, et elle disparaît, et l'Église ne sert plus à rien dans le monde. Elle ne sert plus à rien. Les monuments restent, mais l'esprit est parti. Et ça, c'est un drame. Si c'est plus que des monuments, ça vaut pas la peine que l'on visite le jour de la journée nationale du patrimoine. Ça sert pas à grand-chose. Non. L'Église, elle est belle quand véritablement, eh bien, elle gagne encore des âmes, elle travaille, elle prie, elle adore le Seigneur, et elle est remplie de cette passion. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, parce que la porte, elle est toujours ouverte. C'est l'histoire du fils prodigue avec son père, tu reviens, tu rentres, et tu es accueilli comme si tu n'étais jamais parti. Parce que Dieu pardonne. Tu as ceci pourtant, ou tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaï, œuvre que je hais. Il y avait dans l'Église primitive déjà les prémices des sectes pseudo-chrétiennes, avec les déviations de doctrine, avec déjà des gens qui voulaient prendre la haute main sur l'Église chrétienne, les Nicolaïtes. Ouais, celui qui séduit le peuple, parce que c'est la traduction du mot Nicolas, Nicolaïte. Ouais, celui qui domine le peuple et qui le séduit, déjà les infiltrés. Déjà les premières tendances. Mais la qualité de l'Église d'Éphèse, c'est qu'il savait discerner ceux qui n'étaient pas des prophètes et qui mentaient. Et nous, dans notre temps, nous avons besoin plus que tout. Alors que Jésus revient bientôt, nous avons besoin de demander que Dieu nous donne le don, finalement, spirituel, qui est celui du discernement. Et ça, nous en avons besoin. Si nous avons discernement, on ne tombera pas dans les pièges. Parce que c'est pas possible, c'est l'Esprit qui nous éclaire. Si nous voulons l'écouter. Que celui qui a des oreilles, je termine, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles, c'est vrai, dans notre intelligence humaine, mais les oreilles aussi peut-être au niveau de notre cœur, parce que Dieu parle. Il a parlé à travers tous les temps, il parle à travers tous les siècles. À celui qui vaincra, dira-t-il, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Vous savez que dans le jardin d'Éden, il y en avait deux, hein, l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Connaissance du bien et du mal. Alors je lui donnerai de l'arbre de la vie. Vous savez ce que c'est que le fruit de l'arbre de la vie? C'est l'esprit que Dieu nous a donné, qui nous renouvelle en permanence, qui nous éclaire dans la parole qu'il nous a donnée, qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne l'équilibre, qui nous renforce notre foi et notre vie. Notre vie, la sève, finalement, qui émane du cep. C'est ça le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Eh, le paradis de Dieu, c'est fini, il est fermé, hein? Maintenant, nous allons vers une autre destination, qui ne sera pas le paradis terrestre, mais qui sera le paradis céleste. C'est vrai. Mais en attendant, nous sommes déjà citoyens, enfants de Dieu, en son royaume, que l'on appelle le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dedans. Et nous sommes assis déjà dans les lieux célestes. Que Dieu nous bénisse à travers ce petit rappel. Mais toujours est-il, ce que nous avons besoin, c'est de demander au Seigneur et de lui dire « Mais Seigneur, et nous y aspirons, c'est vrai, quelquefois, hein, devant toutes nos préoccupations et toutes les vicissitudes de l'existence, Seigneur, donne-moi de garder le feu du premier amour. Que Dieu nous bénisse. » Nous allons simplement terminer en remerciant le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est simple à comprendre, parce que tu nous éclaires au plus profond de nous-mêmes. Merci pour cette lettre et ce message à l'église d'Éphèse, qui était vraiment le bon exemple, le parfait exemple d'une église qui sortait tout simplement du souffle du réveil évangélique. Les premiers siècles, le premier temps, Seigneur, sous l'impulsion de ton commandement, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Eh bien, Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions parce que nous sommes les enfants de cette histoire. Oui, Seigneur, nous ne sommes plus, Seigneur, dans le premier siècle, mais nous sommes au 21e siècle, mais nous sommes pourtant les héritiers, Seigneur, de ce feu de l'esprit, de cette passion de l'esprit, de cette puissance de l'évangile, de cette puissance miraculeuse. Et nous te louons et nous te remercions. Garde nos cœurs dans la passion de Dieu. Garde nos cœurs, Seigneur, dans l'amour de Dieu, de ta parole et de la personne merveilleuse de Jésus-Christ. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.